Emmanuel, Dieu est avec nous. Que Dieu soit au milieu de nous, c'est une réalité. À moins que vous ne soyez pas encore convertis, mais vous le savez, si vous êtes convertis, vous savez que Dieu est au milieu de nous. Que nos cœurs soient ouverts, c'est autre chose. Réaliser que Dieu est au milieu de nous, c'est une grande bénédiction. Mais que nos cœurs soient ouverts, c'est autre chose. Nous allons faire trois lectures, s'il vous plaît. La première dans Colossiens. Je parlais ce matin quand on a introduit, avant d'introduire le culte. Vous savez que pour ceux qui arrivent un petit peu avant, nous avons un moment de prière, un petit quart d'heure de prière avant que le culte ne commence. Et je faisais allusion à Épaphras. Épaphras, c'est un collaborateur de l'apôtre Paul. Et regardez ce que le Seigneur dit de lui au travers de l'apôtre. Épaphras, donc, à Colossiens, chapitre 4, verset 12. L'apôtre Paul était entouré de frères qui le soutenaient. Et cette semaine, je lisais partout dans la Bible où Paul ou Pierre parlent de leurs collaborateurs. C'est impressionnant. Colossiens, chapitre 4, verset 12. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon, comme des hommes faits, demeurant disposés à faire toute la volonté de Dieu. Amen. J'espère que c'est votre désir, que vous combattiez, que vous teniez bon jusqu'à la fin. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, c'est à un autre homme que le Seigneur adresse une parole sur la prière. Un homme qui va être éprouvé, un homme qui va être criblé. Il n'y a pas que lui, tous les apôtres vont l'être. Mais Pierre d'une manière particulière, à cause de son caractère d'ailleurs. Luc chapitre 22, verset 31. Il s'adresse à tous, mais en même temps, il a une parole spéciale pour Simon. Vous savez que la prédication a ce but, elle peut parler à tous, et en même temps, elle peut s'adresser à quelqu'un particulier pour dire quelque chose de précis. Luc chapitre 22, verset 31. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Amen. » Le Seigneur aurait pu empêcher que Pierre soit criblé. Est-ce que Jésus aurait pu dire à Pierre, « Écoute Pierre, je sais que Satan va chercher à te cribler, mais je vais prier pour que cela ne t'arrive pas. » Est-ce que Jésus aurait pu le faire? Bien sûr. Mais il a permis l'épreuve, Dieu permet l'épreuve pour que nous apprenions certaines choses. Un petit peu avant, dans l'évangile de Luc, au chapitre 21, il y a une parole, c'est une prophétie en même temps, Luc chapitre 21, versets 34 à 36. N'oublions pas, c'est Jésus qui parle, c'est important. Luc 21, 34, « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. » On reviendra sur cette parole, mais je la relis. C'est une prophétie, c'est ce qui va arriver. « Il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Amen. Cette semaine, j'avais préparé la réunion de ce matin, j'avais préparé une réunion sur la rétribution et sur les récompenses. Pourquoi ? Parce que dans le mouvement de Pentecôte en particulier, nous avons tellement eu peur, c'est entre guillemets, de prêcher le salut par les œuvres, que nous parlons très rarement des récompenses et de la rétribution. C'est le contre-pied de l'Église catholique. L'Église catholique enseigne le salut par les œuvres, la Bible n'enseigne absolument pas le salut par les œuvres, mais le salut par grâce et par la foi. Nous, souvent, c'est pas méchant, mais nous avons oublié de parler des œuvres et des récompenses et de la rétribution. J'avais préparé une étude là-dessus, elle est sous le coude, elle est prête, mais hier, j'aurais pu aller à la journée des enfants, j'aurais pu aller à la journée des aînés, et je pense que ça aurait été bien. Mais je pense qu'il y avait quelque chose de mieux, c'était que je me tienne devant Dieu tout hier pour vous préparer la prédication d'aujourd'hui. Et j'ai eu à cœur de vous prêcher sur ce texte qu'on vient de lire. J'ai donné comme titre à ma prédication « La seule solution pour être debout, c'est de veiller et de prier. Donc je l'ai dit tout à l'heure, que Dieu soit au milieu de nous, c'est une évidence. Si vous ne le croyez pas, c'est que vous n'avez pas la foi, vous ne croyez pas ce que Jésus dit. C'est très grave d'ailleurs. C'est que votre foi n'est pas la vraie foi. Le Seigneur est au milieu de nous. Que notre cœur et que nos oreilles soient bien ouvertes, c'est une chose. Voyez, même Dieu peut nous le dire au travers d'enfants. C'est vrai ou c'est pas vrai? Dieu nous parle au travers des enfants, au travers de ces cantiques. Donc, son esprit veut nous diriger. Oui, n'oubliez pas d'éteindre vos portables, s'il vous plaît. Voilà, c'est écrit, mais des fois on peut oublier. Alors, que son esprit nous dirige, c'est une chose. Vous avez envie que le Saint-Esprit vous dirige? Vous avez envie que le Saint-Esprit dirige l'Église? Que Dieu puisse nous parler? Est-ce que ça fait partie de vos prières secrètes? Seigneur, parle-moi, s'il te plaît. Est-ce que ça vous arrive de dire, mais Seigneur, je te demande de me parler? Eh bien, je crois que le Seigneur va nous parler ce matin au travers de sa parole. Toutes les paroles du Seigneur, sont sérieuses, toutes sont importantes. Tout ce qui est écrit dans le Saint-Livre est sérieux. Toutes les prophéties doivent être considérées. Une prophétie humaine, quand la Bible dit « examiner les prophéties », c'est les prophéties qui viennent de la part des hommes comme, ou des femmes comme nous qui pouvons apporter une parole, mais nous pouvons nous tromper. Vous êtes d'accord? On peut se tromper. Je me souviens avoir repris plusieurs personnes par rapport à des prophéties, parce que ce qu'elles avaient dites n'était pas du tout biblique. Donc on peut examiner les prophéties. Mais quand Dieu dit examiner les prophéties, vous comprenez bien qu'il est hors de question d'examiner les prophéties bibliques. Les prophéties bibliques, il faut les prendre au sérieux. Elles sont toutes sérieuses. Quand Jésus dit qu'un temps viendra où l'ennemi s'acharnera et que l'épreuve viendra comme un filet qui s'abattra sur la surface de toute la terre, ce sont des choses qu'il faut prendre au sérieux. Dans tout ce que Jésus a écrit, on en a besoin. C'est la raison pour laquelle il est bon de lire la parole de Dieu. Ces choses ont été écrites il y a 2000 ans. Parfois, on entend des chrétiens qui disent « Oui, mais ça a été écrit il y a longtemps. C'était peut-être valable pour les chrétiens de l'époque. Mais pour nous, est-ce que c'est toujours valable ?» Moi, je crois que c'est encore plus valable pour nous qui nous approchons du retour du Seigneur. Ce qui était important à l'époque, croyez-moi, c'est important aujourd'hui. D'autant plus que nous sommes dans les temps de la fin, que l'Église traverse des temps difficile, c'est avec encore plus de sérieux qu'il faut prendre ces choses, parce que l'Église traverse l'apostasie d'une manière générale. Nous avons besoin de ces paroles. Nous sommes malmenés, je ne sais pas si ça vous arrive d'être malmenés par les épreuves. Le Seigneur la parle des soucis de la vie. Est-ce que la vie est faite de soucis? Ben oui, il y a les soucis de la vie. Rien que les soucis de la vie, déjà, ça peut malmener quelqu'un. Mais il y a les tentations, il y a les combats, il y a les faiblesses, il y a l'opposition de l'ennemi, la colère de l'ennemi, il y a ce filet qui vient sur la surface de toute la terre, etc. Et si l'Église ne prie pas, si les chrétiens ne prient pas, ils ne sortiront pas vainqueurs. Vous pouvez interpréter ce texte de la façon que vous voudrez. Le Seigneur Jésus explique que le seul moyen d'échapper à ce filet, à la tentation et à l'opposition de l'ennemi, c'est que les chrétiens, c'est que les églises veillent et qu'elles prient afin qu'elles aient la force d'échapper à toutes ces choses et de se trouver debout. C'est pour ça que le Seigneur dit, vous avez vu avec moi, verset 36, « Veillez donc et priez en tout temps ». Je ne sais pas où vous en êtes au niveau de vos résolutions, au niveau de votre bonne volonté, au niveau de votre caractère. Où vous en êtes? Avez-vous fait des progrès depuis que vous êtes converti? De votre caractère. Vous connaissez votre caractère? On vous parle des fois de votre caractère? Votre femme, des fois, vous parle de votre caractère? Est-ce que votre conjoint vous parle de votre caractère? De votre personnalité? On a des problèmes avec, oui ou non? Il peut nous arriver. Il peut arriver d'avoir des problèmes à ce niveau. Nous le savons. Nous le savons. Jésus a dit « L'esprit est bien disposé ». Vous le connaissez ce verset, mais la chair est faible. Cet enseignement qu'on a répété et qu'on se doit de répéter régulièrement, je pense que nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres ont entendu certainement, s'ils étaient chrétiens, ont entendu cette exhortation il y a 100 ans, il y a 200 ans. Je ne sais pas si vous avez connu vos ancêtres, non? Vous n'avez pas connu, peut-être par généalogie. Mais une chose est sûre, s'ils étaient chrétiens, c'est sûr que dans une église, ils ont entendu cette exhortation du Seigneur Jésus, « Veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. » C'est clair, c'est précis. Et dès que nous cessons de prier, nous sommes en danger. Je pense que c'est bien de le redire. Moi, j'avais préparé toute mon étude, je m'étais appliqué en plus à préparer cette étude sur les récompenses, sur la rétribution, parce qu'on n'entend jamais parler là-dessus et que c'est quand même important. Le Seigneur en parle souvent dans l'Évangile et je sais que ça aurait fait beaucoup de bien, mais je pense que le besoin aujourd'hui, en tous les cas, c'est que les chrétiens, certains parmi nous, doivent prendre conscience qu'ils sont en danger à partir du moment où ils ne prient plus. Nous sommes en danger. Et je vous pose la question, je nous pose la question, quelle est notre vie de prière? C'est une question à laquelle nous devons tous répondre. Est-ce que vous êtes satisfait de votre vie de prière? Est-ce que vous pensez que Dieu peut vous parler ce matin sur votre vie de prière, sur la façon dont vous devez vous tenir devant Dieu? Je ne parle pas de la prière ou de la louange que nous faisons monter le dimanche matin dans ce lieu. Peut-être quelqu'un me dira, mais moi je ne prie pas ici, je suis timide, j'ose pas lever la voix vers Dieu lorsque je suis assemblé. C'est pas de cette prière-là, de cette louange-là que je veux vous parler. Ça, c'est pas trop grave. C'est bien de prier ensemble, c'est bien. Mais c'est pas cette prière-là. C'est cette prière que Dieu veut que nous fassions lorsque nous sommes seuls avec lui dans notre chambre ou dans notre salon. Ces paroles se sont adressées aux chrétiens de tous les siècles. Lorsque Jésus a prononcé ces paroles aux chrétiens qui l'entouraient, c'était pour eux. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ces paroles s'adressent aux chrétiens de tous les siècles. De tous les siècles. Il ne faut pas que nous l'oublions, c'était valable pour les chrétiens d'il y a 500 ans, s'ils sont restés fidèles jusqu'à leur mort, c'est qu'ils ont pris au sérieux cette exhortation du Seigneur Jésus. Mais est-ce que cette parole s'adresse à votre cœur? Qu'est-ce que cette parole vous dit? Parce que chacun peut interpréter la prédication d'une manière différente. Si vous saviez ce qu'on me fait dire, mais c'est impressionnant. Les gens qui ont dit « Monsieur Gault, vous avez dit ça dans une prédication ». Alors je sais si je l'ai dit ou si je ne l'ai pas dit. Et combien de fois j'ai dit, écoutez, tout est enregistré, vous pouvez le vérifier. Ah ben oui, vous n'avez pas dit ça. Mais les gens l'ont interprété. Alors c'est pas grave, ce qu'on a fait dire à Jésus, n'en parlons pas. Là c'était grave. Mais mes frères et sœurs, qu'est-ce que vous dit personnellement cette parole? Veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront sur la surface de toute la terre. Vous devez pouvoir répondre, ce n'est pas une question piège, c'est sérieux, pour que vous puissiez dire, mais c'est vrai, où j'en suis, moi, de ma vie de prière? Où j'en suis de ma vie de prière? J'espère qu'il y a des Épaphras, Épaphras qui priaient pour que les gens tiennent bon. J'espère qu'il y a des gens qui prient pour que tous les chrétiens tiennent bon. Mais imaginez que tous les Épaphras meurent. Imaginez-vous, est-ce que ça peut arriver que Dieu reprenne quelqu'un dans l'église qui avait une vie de prière? On a entendu des églises qui se sont écroulées parce que certains chrétiens sont morts, parce que c'était des hommes ou des femmes vraiment qui avaient une vie de prière et qui soutenaient l'église. Alors béni soit Dieu pour les Épaphras. Mais mes frères et sœurs, où j'en suis, où nous en sommes de notre vie de prière? Est-ce que cette parole vous parle ce matin? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un de qui va pas bien, qui dit « Ah, mais moi j'avais besoin d'autre chose, ah, mais on a déjà parlé sur la vie de prière, vous vous répétez ?» Si vous en êtes là, laissez-moi vous dire que ça va pas. La parole, elle doit être reçue avec beaucoup de cœur. Si le Seigneur nous dit ce matin « Veillez et priez », c'est parce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour rester debout. Vous avez vu, pour échapper à tout ce qui arrivera sur la surface de toute la terre. Ça arrivera sur la surface de toute la terre. Alors, l'Église doit prier. L'Église doit être une maison de prière. Vous êtes d'accord? L'Église doit être une maison de prière. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, ce n'est pas avec moi que vous n'êtes pas d'accord. C'est vraiment avec la pensée de Dieu. Alors, bien sûr qu'enregistrer cette parole avec la tête, c'est facile. Veillez et priez. Vous pouvez tous dire, ça y est, clac, j'apprends par cœur un verset aujourd'hui. Tiens, c'est le verset Luc 21-36, veillez et priez. Voilà, je peux enregistrer ça. Avec ma tête, il y a des paroles, c'est très facile à enregistrer. Rien n'est impossible à Dieu. Quand l'ange Gabriel a dit à Marie, à la Vierge Marie, rien n'est impossible à Dieu. Voilà, c'est une parole. Est-ce qu'elle est puissante, cette parole? Mettez n'importe quel problème auquel vous pouvez penser, ajoutez-y cette promesse, rien n'est impossible à Dieu, ça règle tous les problèmes. Avec la tête, c'est facile à enregistrer. C'est facile à apprendre par cœur, Luc 1. Mais que ça descende vraiment dans notre cœur, si notre Père demange. Et je pense que c'est bien d'apprendre par cœur, mais c'est bien de le réaliser. Et cette parole que nous venons de lire était très facile à apprendre par cœur. Il n'y a pas besoin d'un très grand degré d'instruction pour la comprendre avec la tête. Mais mes frères et sœurs, la vivre, c'est autre chose. Est-ce que cette parole a touché mon cœur de l'importance de veiller et de prier? Si le Seigneur le dit, veillez et priez en tout temps, c'est que c'est important. Est-ce que cette parole est importante pour vous? Est-ce qu'il y a des raisons que Jésus nous adresse cette parole? Pourquoi le Saint-Esprit permettrait-il ce matin que nous rappelions une fois de plus l'importance de prier dans sa maison? Vous avez vu ce que Jésus dit? Vous avez votre Bible ouverte, on relit le verset 35. C'est ce qui arrivera, c'est ce qui est en train d'arriver. Car ce jour justement, où beaucoup de gens ne seront pas prêts, beaucoup de gens seront surpris. Ce jour viendra à l'improviste, car il viendra comme un filet sur la surface de tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. J'ai failli demander à un jeune ou à un stagiaire de préparer, de mettre une photo, comme j'avais fait pour les poules l'autre jour, de mettre la photo de ces filets, vous savez, qui sont cachés dans les arbres. Vous savez, ces filets que les oiseleurs utilisent, bien sûr, si vous n'êtes pas chasseur ou si vous ne connaissez pas, c'est peut-être difficile de vous représenter ce que le Seigneur Jésus a voulu dire. La Bible parle souvent du filet de l'oiseleur. Et c'est un filet que l'on mettait dans les arbres, entre les arbres, et que lorsque les oiseaux arrivaient, et bien lorsqu'ils le voyaient, ce filet, et bien c'était trop tard. Et le Seigneur Jésus explique qu'il y aura un jour terrible, où ça sera trop tard. Quand les gens se rendront compte de ce qui se passe, ils seront pris dans le filet. Parce qu'ils n'auront pas veillé, parce qu'ils se seront inquiétés des soucis de la vie. Mais il n'y a pas que les soucis de la vie. Ça commence par les soucis de la vie, mais il y a toutes les épreuves difficiles qu'on traverse. Et si Jésus dit « mais veillez et priez en tout temps », c'est que c'est sérieux, c'est qu'il y a des raisons. Les oiseaux se font piéger. Moi j'ai assisté en Polynésie il y a longtemps, ce n'était pas la fois où j'y étais, la façon dont on pouvait la pêche au filet. Mais c'est impressionnant, ils plongent, ils mettent un filet de plusieurs mètres sous l'eau, et quand un banc de poissons arrive, ils se mettent de chacun d'un côté, ils font en sorte que le banc de poissons s'approche de plus en plus du filet, et quand les poissons sont à 1-2 mètres du filet, il y a un gars qui fait un mouvement brusque, les poissons ont peur, ils se jettent dans le filet, et les plus gros, bien, ils se font piéger. C'est trop tard, ils n'ont pas le temps de voir. Si Jésus utilise cette image, c'est qu'elle est sérieuse. Ça va venir, c'est une prophétie. Nous vous dites, bon, moi je serai épargné si j'habite aux Bahamas, je serai peut-être plus en sécurité. Moi j'ai entendu un chrétien qui me disait, oh moi je vais aller habiter sur telle île, je serai à l'abri. Écoutez, moi je lis, ça viendra sur la surface de toute la terre. Ce jour viendra, c'est une prophétie. Ne priez pas pour que ce jour ne vienne pas. Il y a des gens qui prient, Seigneur, que ces choses-là ne se passent pas. Écoutez, les prophéties, combattre contre les prophéties, c'est ça craint quand même. Je sais pas la peine que j'en parle davantage, c'est pas la peine. Ce jour viendra, et si nous voulons être prêts, nous devons avoir une vie de prière. Un chrétien qui ne prie pas est un chrétien qui est en danger. Je vais dire quelque chose que je peux le dire. Le mardi, des fois, je regarde certaines chaises et je me dis, là, il devrait y avoir un chrétien. Et il n'est pas là. Je le dis, ce n'est pas une façon de dire « venez le mardi ». Ce n'est pas trop mon genre d'utiliser la chair pour essayer de vous convaincre. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous convainc, ça ne marchera pas beaucoup. Mais quand même, je pense que l'Église, les frères, les sœurs, nous devrions nous poser la question « où elle est ma place ?» Ici, mais dans ma maison, qu'est-ce que je fais de la vie de prière? Oui, un chrétien qui ne prie pas est un chrétien qui est en danger. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui n'a plus ou qui ne veut plus de communion avec le Seigneur. Parce que c'est quand même, on peut se poser plein de questions. Pourquoi je ne prie pas? Est-ce que je vais avoir le culot de dire « j'ai pas le temps » Ou est-ce que j'aurai peut-être plus l'honnêteté de dire « mais est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir de la communion avec le Seigneur ?» Est-ce que la communion avec Dieu, c'est important pour moi? Ce danger menace tous les hommes, on vient de le lire. Il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Je le répète, ça a été prononcé par le Seigneur Jésus. Des fois, on dit oui, ça, on enseigne ça dans telle église, dans tel mouvement, on met l'accent sur la sanctification. Dans nos églises de Pentecôte, on met davantage l'accent sur les prophéties. Bon, c'est vrai qu'il y a des dénominations qui adoptent plus une façon de voir que d'autres. Ça, c'est vrai. Mais mes frères et sœurs, ce qui a été dit par le Seigneur Jésus, ça doit être dit dans toutes les églises. Dans toutes les églises, c'est sérieux. Ça vient sur tous les hommes. Ne vous imaginez pas que quelqu'un est à l'abri. Cette parole, elle concerne tous les hommes et beaucoup de gens seront surpris, croyez-moi. Et il n'y a qu'une solution, il n'y en a pas deux. Le Seigneur n'a pas dit, voilà, si vous voulez échapper, vous devez prier et en même temps, vous devez faire ceci ou aller habiter là-bas. Il n'y a qu'une solution. C'est pour ça qu'elle est importante. C'est pour ça que c'est sérieux, veiller et prier. Celui qui ne veille pas et celui qui ne prie pas ne sera pas prêt. Cette parole, j'aimerais que vous la reteniez dans votre cœur. Une dame, je vous ai donné déjà ce témoignage il y a quelques mois. Une dame est venue me trouver, il n'y a pas longtemps qu'elle était baptisée. Elle me dit, monsieur Gou, est-ce que vous croyez que je serai prête quand Jésus reviendra? C'est une bonne question, une personne qui découvrait l'évangile. Et j'ai dit à cette sœur, est-ce que vous veillez, est-ce que vous priez tous les jours? Elle me dit, oui, monsieur Gou, je le fais avec assiduité, je lis la Bible et je prie tous les jours, je le fais sérieusement. Et bien, je dis, vous serez prête. Voilà, parce que le Seigneur, c'est simple, celui qui veille et celui qui prie, il aura la force d'échapper à toutes ces choses. Si on est là ce matin, pourquoi vous êtes là? Vous étiez là pour voir vos enfants chanter? Pourquoi vous êtes là? Voilà, parce que vous aimez Dieu. Vous aimez le Seigneur? Vous aimez le Seigneur? Je pense que si on est là, réellement si on est là, c'est parce qu'on aime le Seigneur. Je le pense vraiment. C'est vrai qu'on peut aller plus loin dans la réflexion, puisque Jésus dit, celui qui m'aime... C'est celui qui garde ma parole. Mais quand même, on peut quand même avec simplicité dire, si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous aimons le Seigneur, parce que nous aimons sa parole. Vous aimez la parole? Je le pense. Parce que nous voulons prendre ces choses au sérieux. Oui, je suis là parce que je veux m'occuper du salut de mon âme. C'est quelque chose de profondément sérieux. Je l'ai dit, cette parole est une prophétie, donc c'est exactement comme cela que les choses vont se passer. Notre Seigneur nous l'a dit parce qu'il nous aime, d'accord? Veillez et priez, dira-t-il ailleurs, afin que vous ne tombiez pas en tentation. C'est écrit où ça? Hein? Dans la Bible. Ils sont bien mes pasteurs en formation. Je sens que je les ai bien formés, c'est bien. Vous savez, mes frères et sœurs, écoutez bien. C'était la première partie. La deuxième partie concerne bien sûr le combat de l'ennemi. L'ennemi, il est patient. Ce matin, en priant, je repensais à ce texte où on ne sait pas trop, les uns disent que c'est les frères, d'autres disent que c'est les fils de David. Vous savez, il y a un texte dans la Bible, on va le lire ensemble, on a le temps, on va le lire. Dans 2 Samuel, au chapitre 21, les frères ou les fils de Goliath avaient mal digéré ce qui était arrivé à Goliath. Et ils attendaient. Ils attendaient le moment où ils pourraient régler le compte à David. Ils attendaient. 2 Samuel, chapitre 21, verset 15. Regardez bien. Quand vous lisez la Bible, regardez bien le contexte. Le contexte, il est où? Regardez bien. 2 Samuel, chapitre 21, verset 15. Les Philistins firent encore la guerre. La guerre, elle y est toujours. Vous le savez qu'il y a une guerre spirituelle? Elle y est toujours, cette guerre spirituelle. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. Regardez les trois mots qui suivent. David était fatigué. David était fatigué. Jisbi Benod. Alors, c'est un des frères ou un des fils de Goliath. Ça, vous savez ce que ça veut dire, Jisbi Benod? Il est patient. C'est bien. C'est le stagiaire qui a dit ça, hein? Non, aïe. Jisbi Benot, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain et il était ceint d'une épée neuve. Abishai, ça veut dire père de la force, voilà, vient au secours de David. Vous lirez la suite. Et je comprends pourquoi David avait pris Saint-Pierre dans le torrent. Parce qu'en vérité, ils étaient cinq géants. Si, ils étaient là. Enfin, ça, c'est pas grave. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a des moments où on est fatigué. Et David n'a pas dit à ses amis... Laissez-moi faire. Je connais, moi, les géants. Donnez-moi une fronde, un caillou, je vais vous expliquer. Vous savez, il y a un temps où on peut faire des exploits. Il y a un temps où on a besoin des autres.
Et heureusement que David n'était pas seul. Et si beaucoup de gens ne prient plus et ne luttent plus et ne sont pas là alors qu'ils devraient y être, et je sais pas, c'est pas un reproche, mais que Dieu nous donne l'intelligence de demander aux autres de nous aider. Abishai était là, c'était un ami de David. David n'a pas fait le malin, c'est pas parce qu'on est un homme selon le cœur de Dieu qu'on n'a pas besoin des autres. Au contraire, que personne ne se mette à dire « moi, je peux vivre ma vie tout seul, le Seigneur me fortifie », tout ça, ce n'est pas biblique. L'apôtre Paul était toujours accompagné de collaborateurs, toujours, de deux, de trois, de cinq, de sept parfois même. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin des frères. Et lorsque on lit une prophétie aussi grave, aussi sévère, qui est importante pour le temps dans lequel nous sommes, nous devons veiller, parce que nous sommes parfois fatigués. Il n'y a pas de honte à être fatigué. Si vous êtes fatigué parce que vous vous couchez à 4h ou 5h du matin en regardant la télévision, ça, ce n'est pas une fatigue, une bonne fatigue. Mais si vous êtes fatigué parce que la vie fait que vous avez un travail fatigant, ça peut arriver. Et heureusement que nous pouvons demander à des frères de nous soutenir. Est-ce que vous le faites, ça ? On va le faire, on va terminer le culte en priant les uns pour les autres. Parce que croyez-moi, il y en a qui en ont besoin. Celui qui ne veille pas, il ne sera pas prêt. Celui qui ne prie pas, il ne sera pas prêt. Et vous devez l'entendre, je dois l'entendre, que nous ne pouvons pas nous permettre de passer outre cette parole aussi sérieuse, aussi profonde, aussi simple et sévère du Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est comme ça que ça arrivera. L'ennemi, il est patient. Jisbi Benod, il était patient. Il n'a pas fait ça le lendemain où David avait tué Goliath. Il a attendu que David soit fatigué. Et croyez-moi, l'ennemi, il est patient. Et il attendra, il nous isolera. Si David avait été seul ce jour-là, je pense que ça ne se serait pas bien passé. C'est pour ça que nous avons besoin d'une vie d'église. Les frères et sœurs, ils ne sont pas parfaits. Vous le voyez, regardez bien le gars en face de vous. Et vous savez bien qu'il n'est pas parfait. Mais quand même, on n'a pas besoin les uns des autres. On n'a pas besoin des uns. Qui peut se permettre de dire, oui, moi, l'église, j'y vais plus pour... Eh bien, c'est un piège dans lequel le diable vous a planté. Laissez-moi vous le dire, vous pouvez l'expliquer comme vous voudrez. Laissez-moi vous dire que si vous êtes en train de dire, oh, mais moi, je n'ai pas besoin de l'église, vous êtes en train de tomber dans le plus grand piège. David, cet homme selon le cœur de Dieu, savait s'entourer d'hommes qui l'ont protégé. Vous lirez la suite de ce chapitre et vous allez voir que c'est bien d'avoir des amis qui tiennent debout. Croyez-moi, ça vaut la peine. Le Seigneur l'a dit, et il y a des gens, si vous ne veillez pas par exemple, si vous ne priez pas, vous allez rétrograder. Vous allez me dire, mais non monsieur Gouge, mais ça ne sera peut-être pas dans 6 mois, mais dans 1 an, ou dans 2 ans, vous rétrograderez. Vous trouvez que je suis trop dur en vous disant ça ? Est-ce que vous trouvez que c'est sévère ? Est-ce que c'est dur ? Est-ce que quelqu'un se dit, mais pour qui il se prend ? Je ne me prends pas pour personne. Mais je sais que quelqu'un qui ne veille pas, et quelqu'un qui ne prie pas, quelqu'un qui n'a pas une communion avec Dieu ne tiendra pas. Il faut que nous l'entendions, ce sont des choses très simples. Tous les enfants de l'Église qui étaient là le comprendraient facilement. Si je ne prie pas, je tomberai en tentation. Le savez, le diable, il le sait. Est-ce qu'il connaît ce verset, le diable ? Ben oui, il le connaît bien. Et il sait très bien, justement. Vous savez quand le diable a tenté Jésus dans le désert, vous voyez qu'il connaissait bien la Bible. Le diable, il connaît très bien ce verset. Et il sait très bien qu'un chrétien qui ne prie pas est un chrétien qui est en danger. C'est pour ça que le diable va tout faire pour que nous ne prions pas, pour que nous n'ayons pas de temps, pour que nous ayons toujours un embarras. Oh, je suis fatigué, voilà, je suis fatigué, je suis dans l'épreuve, je n'ai pas envie de prier. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas avoir envie de prier ? Mais bon, moi, ça m'arrive. C'est pas la chose que j'aime le plus. Que personne ne dise, oh, moi j'ai toujours envie de prier. Si vous êtes comme ça, venez me trouver, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer que les nuages, il faut parfois en descendre. Des fois, on n'a pas envie de prier, parce que des fois, on est fatigué. Mais le diable, il fera tout pour que nous n'ayons pas une vie de prière. Il ne nous empêchera pas de prêcher, il ne nous empêchera pas de jouer de la musique, il ne nous empêchera pas de nous occuper des enfants, je ne sais rien. Il ne nous empêchera pas de servir Dieu, il nous empêchera de prier. Parce qu'il sait très bien, lui, il le connaît par cœur, ce verset. Mes frères et sœurs, est-ce que vous aimez vous retrouver chez vous, tout seul, dans la présence de Dieu ? Mais je ne sais pas, mais même quelques minutes, dire, Seigneur, il faut que je prie, je vais partir au travail, protège-moi de la tentation. Ah, moi, non, je ne le fais pas, c'est de la religiosité, c'est de la superstition, on me l'a déjà dit. Moi, demander à Dieu qui me protège tous les jours, moi, j'ai confiance à Dieu, moi, je suis à l'aise dans ma BMW, je ne risque rien. Je l'ai entendu, ça.
Écoutez, béni soit Dieu si vous avez une BM, c'est bien. C'est bien, moi je... Très bien. C'est pas quelqu'un de l'église qui me l'a dit. Ne cherchez pas. Qui c'est qui a une BMW? Non, non, ne cherchez pas. C'est pas quelqu'un de l'assemblée qui me l'a dit. Mais ça a été dit. Béni soit Dieu si vous avez une voiture qui est plus costaud que les autres. Mais vous savez, même si vous roulez dans une petite de chevaux, Dieu peut vous protéger. Vous le croyez que Dieu vous protège? Non, mais il faut quand même avoir commencé à perdre un boulon, justement, quand on commence à penser que c'est la voiture qui nous protège. Je crois que béni soit Dieu si on peut s'acheter une voiture. Mais c'est Dieu qui nous protège. Et ce n'est pas de la superstition que de dire chaque jour, « Seigneur, je te demande de me protéger de toutes les tentations qui peuvent venir sur la terre. Seigneur, je veux te chercher, je veux protéger ma famille. » Est-ce qu'on peut dire à Seigneur, « Protège mes enfants. » Vous savez, ma femme, hier, elle a reçu un mail d'une personne à qui on a parlé il y a plus de 30 ans. Une personne qui avait fait de la prison, qui était dans un état pas possible. Elle a envoyé cette personne un mail il y a 30 ans, et c'est vrai que je prie pour cette personne depuis 30 ans. Moi, ça m'a encouragé. Vous voyez comme quoi ça vaut la peine de prier. Vous vous rendez compte? 30 ans. Je suis sûr que la personne, si elle me croise, elle ne me reconnaîtra pas. Mais je suis persuadé qu'il s'est passé quelque chose lorsqu'on a prié. Alléluia, que son nom soit béni. Satan, il fera tout. N'oubliez pas que c'est le prince de la puissance de l'air. Et nous devons nous poser la question, mais qu'est-ce qui m'empêche de prier? Qu'est-ce qui m'arrête de prier? Parce que je l'ai dit tout à l'heure, il y a des moments où on est découragé. Moi, le premier, ça m'arrive. Alors, j'ai commis un péché. Est-ce que ça peut arriver qu'on commette une faute? Y allez, répondez-moi. Est-ce que ça vous arrive de commettre une faute, de commettre un péché? Est-ce que vous avez envie de prier quand vous avez commis un péché? Eh bien non. Et voyez, le diable, il va dire, voilà. Alors, tout d'un coup, il défend la sainteté de Dieu pour nous empêcher de nous approcher de Dieu. Mais voyez comme il est tordu. Il va tout faire alors que c'est le moment où on devrait peut-être encore avoir envie de s'approcher. Seigneur, tu vois, j'ai passé une mauvaise semaine, j'ai commis une erreur. Je te demande vraiment de me pardonner. Justement, quand ça va pas, est-ce qu'on peut s'approcher de Dieu avec confiance? Voyez, et si vous examinez tous les cas de figure, vous vous rendrez compte combien le diable fera tout pour nous empêcher de prier. Les soucis, les épreuves, le chemin, il est difficile. Parfois, on se trouve pas toujours dans les oasis. C'est bien les oasis, mais il y a le désert aussi. Est-ce que ça peut arriver que Dieu nous plante dans un désert, parfois pendant quelques jours? Ben oui, ça peut arriver. Est-ce que ça peut arriver d'avoir été contrarié? Oui, voilà, le soupir me prouve qu'il y en a qui ça arrive. Est-ce que ça arrive d'être contrarié? Est-ce qu'un enfant peut vous contrarier? Est-ce que ça peut arriver? Un enfant, une belle fille, oui. Est-ce que ça peut arriver, mes frères et sœurs? Ben oui. Et tout ça, tout ce qui fait partie de la vie, parce que soyons intelligents, tout ce qui fait partie de la vie, l'ennemi peut l'utiliser pour faire qu'on ne va plus prier. Et, ou alors, je n'ai peut-être pas été prié, je n'ai peut-être pas été exaucé. Tu vois, combien de me l'ont dit? Ouais, je demande à Dieu qu'il me donne ceci, je demande à Dieu qu'il me donne cela, je n'ai pas été exaucé, et bien puisque c'est ça, je ne prie pas. Alors, je ne sais pas, il y a peut-être des prières que Dieu n'a pas exaucées, heureusement. Mais ce genre de prière, Seigneur, garde-moi de la tentation, délivre-moi du malin, Seigneur, garde-moi de la tiédeur, protège-moi par ton sang précieux. Vous croyez que c'est des prières que Dieu peut exaucer? Mais bien sûr, si vous dites au Seigneur tous les jours, Seigneur, protège-moi par ton sang précieux, je veux comme Epaphras demander que Dieu soutienne les frères, soutienne mes enfants, mes petits-enfants. Vous croyez que Dieu peut le faire? Mais bien sûr, c'est pour ça que Dieu veut que l'on veille et que l'on prie. La prière, ça nous garde. La prière, ça remplit votre lampe d'huile. Vous connaissez ces vierges qui n'avaient pas d'huile quand le maître est arrivé? Pourquoi? Eh bien parce qu'elles étaient négligentes. Parce qu'elles étaient folles, dira le Seigneur Jésus-Christ. Parce que dans la Bible, la négligence, c'est de la folie. Pour nous, la négligence, bon, c'est pas grave. Nous, on est tout le temps, c'est pas grave. On n'entend que ça. Nous. Mais moi, je dis qu'il y a des choses qui sont graves. Il y a des choses qui sont très graves. Ne pas prier, c'est grave. Bien sûr, si vous ne priez pas un jour, mais voilà, il y a des gens qui vont dire, voilà, il a dit que si on ne priait pas un jour, c'est pas grave. Voilà. Mais tous les jours, ils vont dire ça. Voilà. Mais moi, si vous saviez tout ce qu'on me fait dire, oui, Monsieur Gou, il a dit, si on ne prie pas un jour, c'est pas grave. Mais bien sûr que c'est pas grave. Je le pense en plus. Mais voyez les gens tordus, ils vont dire ça tous les jours. Eh ouais, ça vous fait rire, mais moi, ça ne me fait pas rire du tout. Hein. Voilà.
Il y a des prières que Dieu écoute. Et nous devons prendre au moins quelques minutes tous les jours pour dire, Seigneur, je t'en supplie, je vais sortir de ma voiture, de prendre ma voiture, quelle que soit la marque, Seigneur, je te demande de me protéger. S'il te plaît, protège-moi. La prière, elle va redonner du courage. Des fois, on perd courage. Vous avez entendu la prophétie. Quand on regarde à soi, quand on regarde à soi-même, eh bien, on se décourage. Mes frères et sœurs, quand on prie, on regarde à Jésus. Et le Seigneur nous redonne du courage. Priez en tout temps. Ah, il faut que je prie 24 heures sur 24. Non mais, vous savez, j'entends tout, moi. J'ai tout entendu. Il faut que je prie, mais vous ne vous rendez pas compte, le Seigneur, ce qu'il demande, de prier tout le temps. Mais prier en tout temps, ça ne veut pas dire qu'il faut prier 24 heures sur 24. Prier en tout temps, ça veut dire qu'il y a toutes sortes de temps. Il y a des temps où on est béni, il y a des temps où on est éprouvé, il y a des temps où on est malade, il y a des temps où on est en bonne santé, il y a des temps où on est prospère, il y a des temps où on est dans la disette. Tous ces temps, il faut prier. Quel que soit le temps que vous traversez, vous devez demander à Dieu qui vous fortifie. Quand on est en vacances, est-ce qu'on doit prier? Quelqu'un un jour m'a dit, ici, alors j'étais furieux. Moi, juillet, août, je vais à la mer. Ne riez pas, parce que moi, ça ne m'a pas plu. C'est grave. Moi, juillet, août, la Bible, je ne la lis pas. Je me repose. Je vais à la mer. Vous ne me verrez pas, monsieur Gaulle, le mois de juillet, le mois d'août. On va à la mer, on se fait du bien. Je pense qu'on ne va pas se faire beaucoup de bien. Quand on en arrive à dire, je ne lis pas ma Bible, le mois de juillet et le mois d'août, je suis en vacances. Moi, je crois que quand Jésus dit, veillez en tout temps, ça veut dire, quand tu es en vacances, invoque-moi. Quand tu travailles, invoque-moi. C'est ça que ça veut dire. Et c'est des chrétiens qui sont baptisés du Saint-Esprit qui m'ont dit ça. Enfin, moi, je vous assure, il y a de quoi dire. Mes frères et sœurs, il y a un combat. Si on prenait le temps me manque, hélas. Mais si on prenait le temps, on verrait que dans la Bible, il y a une guerre. Il y a une guerre spirituelle. Il y a toujours une guerre. Toujours une guerre entre Amalek et Israël. Vous connaissez quand Moïse était sur la montagne, il levait les bras. C'est historique, mais en même temps, c'est spirituel. Ça nous indique qu'il y aura toujours un combat et que ce combat, il est gagné lorsque l'on prie. Et les mains levées vers Dieu, ce n'est pas une méthode qu'il faut reproduire et lever les mains pour prier. Mais ça veut dire que lorsque l'on prie, on mène la victoire dans l'Église. Quand on prie, on amène la victoire sur nos enfants, on amène la victoire sur les autres, sur les familles. Et ce que nous voulons voir, nos enfants bénis, tous ces enfants qui ont chanté, vous voulez les voir prendre le baptême ou vous voulez les voir rétrograder? Vous voulez les voir à 15 ans se rebeller ou est-ce que vous voulez les voir fortifiés, remplis du Saint-Esprit? Mes frères et sœurs, faisons comme Moïse, Aaron et Hur ensemble. Ils ont soutenu le bon combat et ils ont gagné. Ne comptons pas sur les victoires d'hier. Vous avez vu quand Josué a compté sur la victoire de Jéricho, c'est bien une victoire d'hier. C'est beau, mais ce n'est pas parce qu'on a eu une victoire hier que ça nous assure le combat de demain. Laissez-moi vous le dire, une victoire d'hier c'est bien, mais pour avoir une victoire demain, il faut continuer à prier et tous les jours se tenir dans la présence du Seigneur. Épaphras, il est loué par l'apôtre Paul parce qu'il prie pour tous les chrétiens afin qu'ils tiennent bon. Mes frères et sœurs, nous devrions aimer la prière, nous devrions dire « oui, je te demanderai, Seigneur, où est ma place ?» Je répète, ceux qui ne lèvent pas la voix le dimanche matin, n'en prenez pas ombrage, ce n'est pas cette prière-là que je parle. Je parle de cette prière de tous les jours dans le secret de votre bureau. Je parle de cette prière le mardi soir, ou ensemble, c'est ma place. Oui, je veux que tous mes enfants soient sauvés. Est-ce que c'est possible? Moi, je le crois. Vous savez, le diable, il va s'acharner jusqu'à... Lui, il va persévérer. Si vous lisez, bon, j'y reviendrai, mais dans 2 Thessaloniciens, il est dit que le diable ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Et si vous avez lu Ézéchiel et Isaïe, c'est ce qu'il voulait. Et lui, il s'acharne. Parce que c'est ça l'apostasie. C'est ça. C'est ça l'apostasie. Et l'apostasie vient dans les églises parce qu'on laisse le diable s'installer pour la simple et unique raison que l'église ne prie pas. Dans une église où on prie, le diable ne s'installera pas. Dans une église où on prie, c'est l'Esprit de Dieu qui s'installera. Dans une église où on prie, on verra la victoire. Et nous avons besoin de prier les uns pour les autres. J'avais vraiment beaucoup de choses à vous dire, mais je vois que l'heure tourne. Mes frères et sœurs, si la prière ne vous intéresse pas, c'était une dernière note. Si la prière ne vous intéresse plus, revenez à la prière. Vous entendez, mes frères et sœurs? Si cette prédication, elle est pour vous, prenez-la au sérieux. Prenez-la comme un encouragement.